L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesoto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser au Front National. L'université d'été de ce mouvement organisé à Fréjus les 17 et 18 septembre, s'est achevé sur un discours de Marine Le Pen tenu au nom du peuple. Cette intervention a largement porté sur les thématiques de la souveraineté et de l'identité de la France, qu'elle a opposée aux mensonges de l'ultralibéralisme, à l'individualisme radical et à la religion du multiculturalisme. Elle a appelé à la remise en cause des traités européens, première étape d'une lutte contre l'immigration massive et le communautarisme, qu'elle a dénoncé comme une conséquence directe des politiques de l'Union européenne. Ce discours teinté d'antimondialisme a donné lieu à une critique radicale, je cite, des marchands de territoire, d'hommes et de monnaie, que Marine Le Pen a opposé à une France qui n'est pas à vendre, des vies qui ne s'achètent pas, et à un monde qui ne se réduit pas à son exploitation, fin de citation. Absente du discours de Fréjus, la question de l'islam a été abordée le 11 septembre par Marine Le Pen lors de son passage sur le plateau de TF1. Elle a affirmé qu'un islam laïcisé par les Lumières était compatible avec la République et s'est défendue de lutter contre la religion musulmane qu'elle a refusé d'assimiler au fondamentalisme islamiste. Cette intervention de la présidente du Front National a précédé de quelques jours la publication d'un rapport de l'Institut Montaigne sur les musulmans de France. Parmi les nombreux éléments qu'apporte cette étude sur les pratiquants de cette religion, les commentateurs ont particulièrement retenu que 28% des musulmans considèrent que la charia est au-dessus des lois de la République et utilisent l'islam comme instrument de révolte. La question identitaire s'est également immiscée dans la campagne des Républicains. Nicolas Sarkozy a déclaré lors d'un meeting à Franconville mardi dernier que dès lors que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Son principal concurrent Alain Juppé a rapidement réagi en déplorant la nullité du débat politique et appelé à parler de l'avenir de la France. François Bayrou a dénoncé une obsession des origines chez l'ancien président de la République et des propos d'une stupidité crasse. Marine Le Pen aborde les prochaines élections présidentielles en position forte, portée par une progression électorale constante, 17,9% des suffrages aux présidentielles de 2012, 24,9% aux européennes de 2014 et 27,7% au premier tour des régionales de 2015. Elle est créditée d'environ 30% d'intention de vote au premier tour, tandis que la totalité des sondages l'annonce présente au second. Sur cette question, Thierry Pech.
Alors Marine Le Pen a fait une rentrée qui a beaucoup surpris et qui en même temps est extrêmement logique. Alors que tous les autres préparent, non pas le premier tour de l'élection présidentielle, mais le tour pré-qualificatif, les primaires, la dissuasion pré-primaire, elle travaille déjà sur le deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a absolument pas d'obstacle entre aujourd'hui et l'échéance électorale. La famille Le Pen, parce que c'est quasiment un monopole familial, est assise aujourd'hui sur une espèce de monopole naturel à l'extrême droite du paysage politique. Mais en même temps, vous avez rappelé ces progressions électorales, en même temps, elle sait très bien qu'à chaque fois, au deuxième tour, elle se heurte au plafond de verre. C'est-à-dire que c'est sans doute le premier parti de France, c'est sans doute la force politique qui est capable de gagner tous les premiers tours de quasiment toutes les élections aujourd'hui, mais c'est aussi la force politique qui est assurée d'être battue et sévèrement battue au deuxième tour, à l'exception de quelques scénarios, mais qui sont très peu probables. Pourquoi ? Eh bien, singulièrement parce qu'à la présidentielle, les Français ne plaisantent pas avec leur bulletin de vote. L'épreuve de la présidentielle, c'est d'abord une épreuve de crédibilité. Les Français ne cherchent pas simplement quelqu'un qui leur ressemble, ils cherchent quelqu'un qu'ils jugent capable d'exercer des fonctions qui sont extrêmement difficiles. Or, le Front National fait peur, encore aujourd'hui, à une large partie de l'opinion. Il fait peur parce qu'il divise sur des questions comme l'islam, je vais y revenir. Il fait peur parce qu'il est affecté d'une réputation d'aventurisme économique sur la question de l'euro. Il fait peur parce qu'il est jugé incompétent, incapable de s'entourer de technocrates, capable d'exercer les fonctions de l'État. Bref, il n'a pas cette crédibilité nécessaire pour franchir le barrage de l'élection présidentielle. Alors Marine Le Pen, qui a intégré cette difficulté, elle fait une rentrée pour essayer justement, alors que tous les autres s'excitent et se radicalisent pour essayer de s'attacher une part de marché déterminée dans la primaire ou dans les épreuves préqualificatives, elle essaye au contraire de rassembler, de fédérer, et elle dit des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Elle dit voilà, le Front National est une force de paix et de concorde, hein, je cite, c'est une des phrases de sa rentrée. L'islam est compatible avec la République, vous avez rappelé ces déclarations, Philippe, et elle va même jusqu'à expliquer à Sarkozy que interner les fichiers S, bah, c'est contraire à la Constitution et qu'on ne plaisante pas avec la Constitution. Donc tout ça est assez inattendu et en même temps tout à fait logique. Alors cependant, je pense qu'il reste deux grands problèmes sur ce chemin de conquête de crédibilité. Le premier problème, c'est que les militants, les sympathisants, les élus et les candidats à l'élection législative qui accompagneront Marine Le Pen en 2017, ils ont failli s'évanouir en entendant tout ça. Et je vous renvoie à un article tout à fait éclairant de Nona Meyer, paru dans La Vie des idées, sur les données qu'avait collectées il y a quelques mois la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et qui montrait une chose, c'est que la dédiabolisation du Front National est une vitrine de tribunes, de meetings, de discours. Mais en réalité, dans les entrailles du parti, les gens sont étonnamment racistes, et traditionnellement racistes et xénophobes. C'est ça que révèle son étude. Le deuxième point, c'est qu'il y a un terrain très important en matière de crédibilité, c'est l'économie. Et sur l'économie, Marine Le Pen est très ambiguë. Elle a conscience qu'au deuxième tour, il faudra qu'elle aille chercher des voix d'une droite bon teint et tempérée. Donc elle lui sert un discours sur la liberté d'entreprise, sur la fiscalité, etc. Mais en même temps, elle a tellement préempté le champ populiste de droite, elle a tellement préempté la critique sociale du libéralisme et de la mondialisation, qu'elle est emportée dans une espèce de dérive sociale populiste. C'est aujourd'hui celle qui fait les propositions les plus à gauche, j'ai envie de dire, du paysage politique.
Nicole Niesoto.
Oui, moi je vais d'abord revenir sur la montée en puissance du Front National et de Marine Le Pen, parce que c'est quand même tout à fait impressionnant pour un petit parti créé en 72, d'être arrivé à peine au bout de 40 ans à être le premier parti, entre guillemets, des intentions de vote en France, il y a quand même quelque chose de tout à fait impressionnant. Alors il y a non seulement la montée en puissance arithmétique que vous avez citée, donc c'est ses scores, le score aux différentes élections, mais il y a aussi un ancrage géographique qui s'est confirmé au régional, avec non seulement le vote urbain, mais le vote dans une grande partie du monde agricole. Il y a un ancrage sociologique aussi qui s'étend aux fonctionnaires d'une part, avec les Horaces, aux femmes, aux jeunes, très étonnant, mais au régional, il y a deux ans, les jeunes sont apparus très intéressés par le vote national. Maintenant, il y a une très grande campagne qui est faite par le Front National auprès des enseignants, et ils tabent à peu près entre 5 et 10% du vote enseignant. Donc on voit très bien qu'il y a une vraie stratégie d'emprise territoriale, sociologique, etc. Et il y a surtout une réussite thématique qui est d'avoir imposé dans le débat présidentiel, en tout cas dans le débat des primaires, les trois thèmes les plus favoris du Front National, c'est-à-dire l'immigration et le débat sur l'identité, la sécurité et le débat sur l'ouverture des frontières Schengen ou la fermeture, etc., et la souveraineté. Donc ça, je crois que c'est indéniable et il faut, je suis d'accord pour dire que elle a peu de chance au deuxième tour, mais il ne faut pas non plus minorer le tissage du Front National dans ce pays. Alors, évidemment, elle a trois handicaps, je crois qu'il y a important. Il y a premièrement l'image même de Marine Le Pen. Alors, bien sûr, elle a entrepris cette stratégie de dédiabolisation. Il n'y a même plus le site Front National sur ses dernières affiches. Elle a exclu son père, elle a exclu un certain nombre de gens qui avaient tenu des propos racistes. Elle tense sa nièce quand celle-ci fait des déclarations trop sévères sur l'islam et les musulmans. Donc elle a une stratégie de lissage tout à fait remarquable et qui marche d'ailleurs, hein, qui fonctionne assez bien. Mais cette stratégie de dédiabolisation, effectivement, n'aboutit pas à une banalisation du Front National. Et dans les sondages que l'on voit, l'image de Madame Le Pen demain, Madame Le Pen étant même très négative. 65% des Français ont une mauvaise image, 77% la jugent d'extrême droite, ce qui est assez juste quand même. 71% la trouve.
Les 33%.
71% la trouve agressive et 58% la trouve raciste. Ça, c'est son premier handicap. Deuxième handicap, son programme économique, mais pas seulement la critique du libéralisme, tout simplement la sortie de l'euro. Et elle avait mis un peu en sourdine, elle revient après le Brexit, sauf que la Grande-Bretagne n'était pas dans l'euro. Et ça, je crois que c'est un vrai handicap, y compris pour ses électeurs. Tous les sondages montrent que les Français sont totalement attachés à l'euro. Et dernier handicap, pardon, elle n'a pas de réserve de voix au deuxième tour. Elle est peut-être déjà dans une stratégie de deuxième tour, mais elle n'a aucune réserve de voix au deuxième tour.
François Bugeon de l'État.
Elle a fait sa rentrée politique, effectivement, comme vous venez de le rappeler. Et moi, je voudrais insister sur le fait que, juste avant cette rentrée politique, elle avait un petit peu disparu, au fond. C'était tout à fait intéressant. Au cours des mois qui ont précédé cette rentrée à Brachet d'abord, puis à Fréjus ensuite, on l'a très peu entendue. Et elle donnait un peu l'impression d'être en hibernation ou d'être s'être retirée sur l'Aventin. Alors les bruits qui provenaient du Front National disaient elle se prépare, elle travaille sur son programme économique. Et effectivement, c'était la thèse la plus plausible. La vulnérabilité est très grande. Nicole l'a dit, vous l'avez appelé la deuxième vulnérabilité. C'est vrai, mais c'est peut-être la principale finalement du Front National. C'est son programme économique. Et c'est là-dessus que le Front National est le plus facile à attaquer, finalement. Moi, j'avais personnellement eu l'impression que Marine Le Pen en avait conscience et qu'elle cherchait à préparer quelque chose de nouveau. Or, dans cette rentrée politique, il n'y a rien de nouveau sur le thème du programme économique, et c'est pas d'ailleurs d'économie qu'elle parle, c'est d'autre chose. Ce sont les thèmes habituels du Front National, les thèmes identitaires, l'islam, etc., etc. Et c'est très intéressant parce que pendant tout ce temps-là, et malgré cette vulnérabilité, tous les événements qui se sont déroulés au cours de ces derniers mois sont allés dans son sens. Et tous les problèmes, finalement, qui préoccupent les Français apportent de l'eau à son moulin. Les Français s'inquiètent du terrorisme, ils s'inquiètent du problème des migrants, ils s'inquiètent des progrès de l'islamisme militant, ils s'inquiètent des faiblesses de la croissance, beaucoup le sentiment anti-européen monte, la paralysie des institutions européennes les frappe. Tout ceci est évidemment de l'eau au moulin de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, pendant ces derniers mois, est un peu à l'image de ce que, d'après M. Mitterrand, étaient les capitalistes qui s'enrichissaient en dormant, finalement. Elle perçoit des dividendes, finalement, d'une situation qui va en son sens. Alors, depuis sa rentrée politique, ce qui me frappe, c'est que l'atmosphère de préparation de la primaire de droite est ainsi faite que Sarkozy donne le ton et que Sarkozy a déplacé le terrain. Alors que Juppé, Fillon, Le Maire avaient préparé des propositions sur le thème économique et social et sur le thème des réformes, Sarkozy, lui, a déplacé le débat sur le terrain qui est le plus favorable à Marine Le Pen, qui est celui du terrain identitaire et du terrain sécuritaire. Et donc, elle contourne en quelque sorte sa vulnérabilité sur le programme économique et social grâce à l'aide de M. Sarkozy, qui non seulement amène sans doute des électeurs de droite vers le Front National, mais joue littéralement la musique qu'elle souhaite entendre pour réussir, elle aussi, à surfer sur un certain nombre de ses thèmes.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, l'observation de François Bugeon de l'Étang sur le retard à l'allumage, si je puis dire, de la fusée Le Pen, me ramène toujours à mes références, parce que vous savez, j'ai été vaguement fonctionnaire, mais je suis fondamentalement un prof de lettres, et comme Nicole. Et,
beaucoup de profs de lettres fonctionnaires, Jean-Louis.
Oui, non mais... Oui, mais pas d'administration. Et je pense toujours au classique, et je pense que dans cette affaire, l'opposition Le Pen-Sarkozy, c'est l'opposition entre Tartuffe et Scapin. Tartuffe, c'est le héros rare qui arrive au troisième acte, Laurent Serré à Maher avec Ma Discipline, dont tout le monde parle, mais qui n'apparaît que tardivement. Et Scapin, c'est le personnage qui est à toutes les scènes, tout le temps, partout, et qui dont on ne se débarrasse jamais. Et là, on voit bien que Marine Le Pen a fait cette cette immersion, en fait, cette immersion pour réapparaître, pour se faire désirer, pour se faire attendre, pour se faire et pour se faire entendre, même si effectivement, comme le suggère François, elle n'a pas grand-chose de nouveau à dire. Et derrière cela, je crois qu'il est absolument frappant de voir que les images de Le Pen et de Sarkozy sont... Je vais vous faire là une figure de, continue dans la veine grammaticale, sont une construction en chiasme. Et que, en réalité, ils ont chacun a pris la place de l'autre. Sarkozy hystérise complètement le débat. Alors, je prends les définitions classiques de l'hystérie en termes politiques, je les emprunte notamment à Isvan Bibaud dans son analyse sur l'hystérie du peuple allemand, qu'il avait écrit en 44. Il n'était pas du tout anti-allemand, mais en 44, on pouvait peut-être parler d'hystérie allemande. Et il montre que les caractéristiques de l'hystérie, c'est d'abord la simplification manichéenne du débat. On voit bien que Sarkozy se rue là-dedans, que au contraire, Marine Le Pen dit « c'est plus compliqué », elle sort des Horaces qui sont des fonctionnaires, alors elle n'a pas beaucoup de noms, mais enfin, disons qu'on les fait mousser. Deuxièmement, c'est la surestimation de la menace. Tout se ramène pour l'hystérique à une menace. Et là, on voit bien à quel point Nicolas Sarkozy joue sur cette menace. Elle dit au contraire, comme le rappelait Thierry à l'instant, que au bout du compte, les musulmans, il faut les comprendre, il peut y avoir un islam un islam des Lumières, enfin tout un ensemble de discours qu'on n'avait pas entendu. Il y a également un salut par la confrontation. Alors là, Sarkozy pousse à la limite cette tentation, et elle, au contraire, parle de concorde. Enfin, on a l'impression qu'elle sort. Enfin, c'est comme dans une pièce une nouvelle de Marcel Aimé. Tout à coup, elle est auréolée d'une espèce entourée d'une espèce d'auréole. Elle devient une sorte de sainte. Alors, c'est quand même très intéressant. Et à mon avis, c'est très superficiel tout ça peut-être, mais c'est très inquiétant sur le personnage de Sarkozy. Parce que je crois que cette hystérisation est quelque chose... Alors, on comprend très bien pourquoi il le fait. Parce que, c'est pour les raisons que vous avez dites, l'élection des primaires, c'est une élection dans laquelle il n'y a pas de Front National. Mais c'est une élection dans laquelle les électeurs du Front National vont voter. Non pas parce qu'ils sont duplices, non pas parce qu'ils veulent faire une ruse stratégique, simplement parce qu'ils ne savent pas que ce sont des électeurs du Front National. Ce sont des électeurs de droite profonde qui veulent voter pour le candidat le plus à droite et qui voteront donc Nicolas Sarkozy à la primaire et qui, quand il y aura Marine Le Pen quelques mois plus tard au premier tour de l'élection présidentielle, ne ressentiront pas nécessairement la contradiction à l'idée de voter pour Sarkozy. Ça, Sarkozy l'a compris et... Le grand biais des primaires à droite, c'est pas seulement le nombre d'électeurs qui participeront à ces primaires par rapport au nombre d'électeurs qui participeront à l'élection officielle, c'est aussi ce biais qualitatif, c'est-à-dire que on n'a pas d'extrême droite. Donc voilà, on a, mais les conséquences seront terrifiantes. Parce que Sarkozy se retrouvera, si jamais il était victorieux des primaires, il se retrouvera dans une situation véritablement terrifiante. La deuxième remarque que je voudrais faire, et d'ordre, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas les dire. Enfin, je crois que elle est d'ordre idéologique. Je pense que celui qui a très bien compris les choses, c'est Éric Zemmour. Je serais tenté de dire d'Éric Zemmour ce que Sylvie Joly disait de l'inventeur du Bissell, c'est pas la moitié d'un con. Et on peut dire tout ce qu'on veut d'Éric Zemmour, mais sauf on peut pas dire qu'il est idiot. Et notamment, il s'attaque directement à Florian Philippot et au Front National en opposant les deux thèmes fondamentaux qui sont celui de l'identité et de la souveraineté. Et il dit ce qui me paraît très juste en termes purement de Kriegspiel, purement machiavélien, purement politique, que le Front National s'enferre dans cette logique de souveraineté qui plaît aux chevènementistes, Philippot et qui séduit manifestement Marine Le Pen et qui l'empêche sans doute, qui explique son silence ou son défaut d'imagination, son défaut de novation dans le discours, parce que elle sent bien qu'il faudrait dire autre chose. Mais elle est retenue idéologiquement par sa proximité avec Philippot. Et donc, le culte de la souveraineté qui débouche directement sur l'Europe, notamment, c'est quelque chose qui, là, recrée le plafond de verre. Elle s'oppose, sur le plan idéologique, elle s'oppose, à travers l'euro, elle s'oppose aux épargnants. À travers son paganisme et son indifférence aux questions religieuses, de famille, etc., elle s'oppose aux cathos. Et c'est bon. Elle s'oppose en termes stratégiques, a une alliance exclusive avec la droite, et elle fait peur avec son programme social aux chefs d'entreprise. Quand on veut séduire la droite, on a du mal. Et c'est pas étonnant que Madame Marion Maréchal Le Pen soit la seule qui, au régional, ait vu sa liste progresser réellement en pourcentage, pas seulement en nombre de voix, puisque tout le monde a progressé en nombre de voix avec l'augmentation de la participation, mais progresser en pourcentage au deuxième tour de scrutin. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très très fondamental dans les arbitrages du et alors simplement ce que je voulais dire en conclusion un mot c'est que Zemmour a raison mais qu'en même temps elle est si je puis dire sauvée d'elle-même par la vague anti-migratoire, anti-islamique qui recouvre tout. Même si elle veut parler d'Europe, en réalité, les électeurs entendent les Arabes, les musulmans, les migrants.
Thierry Pêche. C'est justement pour ça que Zemmour a tort, Jean-Louis. C'est la seule divergence que j'ai avec ce que vous venez de dire. Non,
vous dites. Divergence vous faites avec moi, c'est une convergence, cher ami. Oui.
vous dites, Zemmour a raison de pointer le fait qu'elle a tort de survaloriser la souveraineté dans son discours plutôt que l'identité. Mais c'est très simple. Et c'est ce que Zemmour ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. C'est qu'elle n'a pas besoin de travailler le thème de l'identité. Il lui est acquis. C'est sur le thème de la souveraineté qu'elle peut gagner des parts de marché. L'identité, c'est fait, c'est coché. Vous savez, il y a des militants qui ont été interrogés après sa sortie sur l'islam compatible avec la République. Et il y a un militant qui dit « Non, mais elle a dû faire un lapsus, c'est pas possible. » Voilà ce qui est dans la tête du militant.
Oui, c'est embêtant pour elle.
En réalité, ce sont des apparences, ce sont des calculs. Et au fond, le militant se dit « Elle est comme nous, elle est islamophobe, elle considère que l'islam, c'est incompatible avec la République. » Deuxième point, il n'y a malheureusement pas dans le répertoire de Molière une comédie à la fin de laquelle Scapin et Tartuffe se retrouveraient. Mais ça pourrait être le dernier acte de la pièce à laquelle nous assistons. Parce qu'il y a deux façons d'élargir sa base électorale. Il y a élargir sans cesse ses thèmes, ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui, mais ça a des limites, parce que très vite on arrive à des contradictions insurmontables. Et puis il y a faire des alliances. Pour le moment, ses positions sur l'Europe, sur l'euro, ont dressé des digues qui empêchent ces alliances. Mais qui nous dit qu'au lendemain d'une présidentielle ou dans le contexte d'une campagne législative, elle n'arrondira pas un peu plus les angles sur tout ça pour créer des voies de passage avec la droite forte ou nationale ou je ne sais pas comment on l'appellera. Et là, Scapin et Tartuffe peuvent se retrouver. Et là, ça devient très problématique.
Moi, je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le cadre et les militants du Front National sont plus proches de Jean-Marie que de Marine. Mais il y a là le problème de ce qui est créé par la notoriété, qui est devenue en soi une valeur absolue, et les innombrables passages à la télévision qui font que c'est très difficile, dans d'autres circonstances, à l'intérieur des partis, il y aurait eu des conflits, des compromis, au fond, quelque chose qui aurait fait que la tête du parti aurait davantage ressemblé à son corps. Là, il se trouve que les médias font une grande partie du travail et de Marine Le Pen et de Sarkozy. Il est quand même très frappant que sur cette petite phrase sur les Gaulois, qui n'a absolument aucun intérêt, sauf celui tactique, qui a d'ailleurs très bien marché, de faire parler de soi et de tirer le nœud du débat à soi-même, les médias en ont parlé ont interrogé tout le monde là-dessus pendant 5 jours. Et je n'ai pas sûr que ce soit fini. Nicole Nézotto.
Oui, je voudrais insister quand même sur la vague de montée du populisme et de l'extrême droite en Europe qui la porte et qui expliquait peut-être son silence. Elle est absolument aidée par un environnement politique européen et américain, parce que le phénomène Trump est là aussi. Et avec votre permission, je voudrais citer, parce qu'on n'a pas vraiment conscience de l'extrême progression des partis d'extrême droite en Europe. Je vais très vite. Autriche, présidentielle dans quelques mois, avec Norbert Hofer donné gagnant l'extrême droite. Allemagne, le parti Alternative for Deutschland, 4,7% des voix en 2 ans, il était zéro avant la question des réfugiés. Danemark, le parti du peuple danois est le deuxième parti au Parlement danois avec 21% des voix. Suisse, l'Union démocratique du centre qui est contre les mosquées, premier parti de Suisse depuis octobre 2005. Finlande, les vrais Finlandais sont au pouvoir en coalition avec un ministre des Affaires étrangères d'extrême droite. Hongrie, Orban est au pouvoir, 20% des voix. Pologne, le PSI, le parti le plus extrême droite contre la liberté de la presse, etc., contre les réfugiés, 37% au pouvoir. En Grande-Bretagne, UKIP a quand même fait 12% des voix aux dernières présidentielles et aux Pays-Bas, et on vote aux législatives en Marc Brossin. le parti d'extrême droite est qualifié de 10% des voix. Donc on voit qu'il y a un environnement populiste et d'extrême droite qui porte Marine Le Pen avec les mêmes traits communs, la revendication identitaire contre les réfugiés et contre les immigrés, et la revendication souverainiste et nationaliste contre l'Europe et contre la mondialisation. Et donc, je crois qu'il faut quand même s'inquiéter, même si elle n'a pas de réserve de voix au deuxième tour. Un dernier mot sur la comparaison européenne. Les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir en Europe, ils le font de deux façons. Soit seuls, comme en Hongrie et en Pologne, soit en coalition, et là, effectivement, Thierry a raison, en Finlande, en Autriche, du temps il y a 10 ans, ces partis arrivent au pouvoir plutôt en coalition que tout seuls.
François Bugeon de l'Étang.
Non, tout ce que vient de dire Nicole est absolument vrai sur l'environnement européen et américain. En effet, il y a cette espèce de vague populiste qui est en train de déferler sur nos démocraties et dans lequel elle s'inscrit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en réalité, les événements et l'air du temps allant dans son sens, elle perçoit des dividendes. Elle n'a pas grand-chose à faire. Elle n'a qu'à engranger finalement ce qui lui arrive. Et le Brexit, les succès des populistes anti-européens, tout ça. Ça va dans son sens. Elle n'a littéralement qu'à engranger. Sur le thème de la souveraineté qu'elle met en avant, je pense que c'est la réponse qu'elle essaye de trouver au problème du plafond de verre dont nous avons parlé et à sa préparation du deuxième tour. Il faut être rassembleur. Bon, alors, le thème identitaire est un thème clivant. Le thème de la souveraineté est un thème davantage rassembleur. Et je pense que c'est pour ça qu'elle essaye de jouer cette carte, au fond. Elle a un langage d'homme d'État. Elle parle du respect de l'État de droit. Elle refuse l'internement des fichiers S. Et au fond, elle essaye d'offrir un populisme à visage humain.
Merci. Je vous propose que précisément nous parlions maintenant de l'Union européenne à laquelle plusieurs d'entre vous viennent de faire allusion ou à la situation en Europe. Le 16 septembre à Bratislava, les dirigeants de l'Union se sont réunis pour la première fois sans le Royaume-Uni. Depuis le vote du 23 juin en faveur du Brexit, l'article 50 du traité de Lisbonne n'a pas été activé par les Britanniques et il ne devrait pas l'être avant février 2017. Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a estimé que l'Union, je cite, « n'est pas menacée dans son existence par le Brexit », bien que la déclaration de Bratislava fasse état d'un moment critique pour notre projet européen. Dans un entretien accordé à la revue Le Débat, François Hollande admet sentir la solidarité s'effriter au sein de l'Union, tandis qu'Angela Merkel appelle à apaiser les inquiétudes de nos populations et à faire que l'Europe soit à nouveau synonyme d'espoir et d'avenir. Le désaccord entre la vision fédéraliste portée par la Commission et son président et celle d'une Europe des États défendue par le Conseil européen et Donald Tusk reste entier. Dans un contexte marqué par l'imminence d'élections majeures en France et en Allemagne, par l'absence de gouvernement en Espagne ainsi que des scrutins importants prévus en Italie, en Autriche et en Hongrie, les dissensions ne manquent pas. Les pays méditerranéens de l'Union réunis à Athènes le 9 septembre avaient annoncé vouloir s'affranchir du dogme de l'austérité et le 13 septembre, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères avait affirmé que ceux qui, comme la Hongrie, bâtissent des clôtures contre des réfugiés de guerre devraient être temporairement, voire définitivement exclus de l'Union. Dans des circonstances de crise des réfugiés et de remise en cause de l'espace Schengen, cela exacerbe des tensions déjà existantes entre le groupe informel de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, unis par leur hostilité à la politique d'accueil, et les autres membres de l'Union. Le déploiement en Bulgarie d'un corps européen de garde-frontières a été acté à Bratislava pour marquer la volonté d'assurer un contrôle total des frontières de l'Union. Malgré la résolution de mieux communiquer les uns avec les autres affichée dans la déclaration officielle, Jean-Claude Juncker a déclaré le 16 n'avoir jamais vu si peu de terrain d'entente entre les États. S'en est suivi le coup de sang de Matteo Renzi dans le quotidien italien Corriere della Sera. Continuons ainsi et l'Europe deviendra un fantasme. Des avancées ont cependant vu le jour lors du sommet. Il a été par exemple décidé de doubler d'ici 6 ans le fonds d'investissement Juncker en faveur de la croissance dans l'Union européenne. Sur cette question, Nicole Nisotto.
Je vais commencer peut-être par une réflexion un peu brutale, mais il me semble que Bratislava a consacré la victoire du clan des populistes sur le clan des Européens au sein même du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. On avait effectivement les 4 pays de Visegrad, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad 4, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, menées par Viktor Orban, qui représentent le clan des populistes, et qui ont, entre guillemets, gagné, en particulier dans la rédaction du communiqué final. Viktor Orban, comme vous le savez, a depuis quelques mois pris la tête de ce qu'il appelle une contre-révolution culturelle, qui est fondée sur la valorisation de l'Europe des nations, le rabaissement de la Commission à un organe purement administratif, la dénonciation totale des élites européennes, et le refus absolu de prendre sa part dans une solidarité collective du flot des réfugiés. Je vous signale que la Commission avait proposé que soient relocalisés 160 000 réfugiés en 2015. La Pologne en a pris zéro, la Hongrie 3, la Slovaquie 2. Et donc, on a ce clan populiste dont on pensait qu'il était affaibli et qu'il serait la cible des critiques des autres. Et en particulier, au mois de mai, on avait vu un début de critiques, en particulier contre la Pologne, de ses mesures très dures contre les juges, contre la presse, etc. Et on s'aperçoit qu'à Bratislava, ce sont les populistes qui ont gagné les débats. Par exemple, sur la question de la relocalisation des réfugiés et sur la solidarité, il n'est plus question maintenant de solidarité, il est question de solidarité flexible. Monsieur Juncker, même Monsieur Juncker dit qu'on ne peut pas imposer la solidarité aux autres pays. Et moi, je trouve ça absolument, cette démission absolument sidérante, d'autant qu'on a énormément de moyens de pression sur ces pays. Si on voulait quand même hausser le critère démocratique au sein de l'Union européenne, je rappelle que la Pologne touche 15 milliards d'euros par an de l'Union européenne, c'est-à-dire environ 5% de son PIB. La Hongrie, un peu plus de 4 milliards. La République tchèque, 4 milliards. Et donc, on a des moyens de pression qui font partie de notre solidarité active vis-à-vis de ces pays, alors qu'eux refusent la solidarité active vis-à-vis des réfugiés. Ça, c'est le premier point. Et moi, je suis très étonnée, encore une fois, que le communiqué fasse droit au refus du devoir de solidarité au sein de l'Union européenne. Deuxième point, sur Bratislava, rapidement, je crois qu'à Bratislava, il a soufflé plutôt un vent de division et de faux-semblants plutôt qu'un vent d'unité et de rassemblement. Souvenez-vous, enfin, premier paradoxe, le Brexit devait réunir les Européens et impulser une nouvelle dynamique à la construction de l'Europe. On a vu exactement l'inverse. On a maintenant deux camps très nets sur le plan économique et sur le plan des réfugiés. Sur le plan économique, entre ceux des Européens qui souhaitent arrêter la politique d'austérité et reprendre une politique de croissance et d'investissement, ce sont les pays du Sud, plus la France. Et alors que d'autres souhaitent maintenir l'austérité, bien sûr, c'est l'Allemagne et les pays du Nord. Et sur le plan des réfugiés, il y a les pays du Sud qui souhaitent que chacun prenne sa part du fardeau, dont l'Italie et la Grèce, et ceux qui refusent, au nom de la souveraineté, les quatre de Visegrad dont j'ai parlé. Et donc, alors que le Brexit devait être l'occasion d'une réunification des Européens pour relancer un projet, on a au contraire l'aggravation des fractures au sein du Conseil européen, avec, pardonnez-moi, un communiqué final qui dit l'Europe n'est pas parfaite, mais c'est le meilleur instrument dont nous disposons. Si l'on souhaite mobiliser les Européens avec un texte comme ça, qui dit que l'Europe n'est qu'un instrument, c'est-à-dire on peut en changer, on peut le modifier, on peut le jeter à la poubelle, on voit qu'effectivement, aucun vent européen n'a soufflé sur Bratislava.
Thierry Pêche ?
Oui, ça me rappelle un slogan de manifestation anti-CPE qui disait « Mieux que rien, c'est pire que tout ». Et là, en l'occurrence, c'est le moins mauvais des instruments, ça sent quand même déjà un peu le sapin, comme on dirait dans les romans policiers. Écoutez, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nicole, sauf sur le Brexit, où je pense que on a sauvé les meubles, parce que ce qu'on craignait après le Brexit, c'était quand même des effets en cascade, des effets de chantage à la sécession qu'on n'a pas vu. Mais pour une raison simple, c'est que le Brexit n'a pas eu lieu. La décision a été prise, mais on n'est pas entré dans l'exécution de la décision. Pour le moment, on est dans une espèce de déni démocratique. Bon. On va voir ce que les Britanniques vont en faire, mais pour le moment, le Brexit n'a pas encore eu lieu. Non, moi, ce que je trouve préoccupant, c'est que l'ensemble européen est fracturé sur deux axes et que ces axes ne cessent de s'écarter. Les fractures ne cessent de s'écarter. Le premier axe, c'est un axe Est-Ouest. Sur la question des migrants, c'est tout à fait évident. Un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, comme on disait autrefois, donc le groupe de Visegrad en l'occurrence, ont décidé de se soustraire à la solidarité européenne, voilà, de ne pas appliquer les règles. Ce sont quand même des pays qui nous ont demandé à tous les autres, beaucoup, en termes de solidarité financière, en termes de diplomatie avec les Russes. On a pris des positions très conséquentes et très lourdes, en partie pour eux. Bon, et la première fois qu'on leur a demandé quelque chose, ils ont dit bah, non, non. Non, nous, on fait pas ça. On n'est pas d'accord avec vous. Et maintenant, ils disent, et c'est ce qu'on peut ajouter à ce qu'a dit Nicole, ils disent autre chose. Ils disent, non seulement on refuse cette solidarité sur les migrants, mais vos opinions publiques aussi la refusent. Qu'on fait notre discussion tout à l'heure sur Marine Le Pen, sur le niveau de popularité du populisme en France. Qu'on fait les dernières élections en Allemagne, où on a vu Alternative für Deutschland et le parti de Frau Köpetri monter en puissance. Ils disent, ben voilà, regardez vos opinions. Ils refusent aussi. Elles refusent aussi. Donc ça, c'est le premier point. Cet axe-là, il s'écarte de plus en plus violemment. Le deuxième axe, c'est la fracture nord-sud sur la question de l'austérité. Alors moi, ça fait des années que je dis à ce micro que la politique austéritaire ordo-libérale allemande a été une faute historique qui se paiera très cher. Eh bien, on le voit. Je veux dire, maintenant, cette opinion est quasiment dominante. Je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, quand on disait ça, on était plutôt minoritaire. Aujourd'hui, il y a toute une série d'institutions internationales qui valident. Je vois Jean-Louis qui tempère de la main mon propos, mais vous allez pouvoir vous exprimer, Jean-Louis. Le FMI, l'OCDE, Washington, beaucoup de voix en Europe, beaucoup d'économistes. Bon. Et voilà, il y a une Europe du Sud qui ne ressemble pas du tout au groupe de Visegrad, qui dit, écoutez, non, c'est intenable. La politique économique que vous nous imposez nous conduit nulle part. Eh bien, sur ces deux axes, l'Europe peut éclater. Et au milieu de ces deux axes, à l'intersection de tout ça, il y a la France et l'Allemagne. Il y a surtout l'Allemagne et il y a la France en suiveuse. Et on doit se poser des questions, je pense maintenant assez radicales. Moi, je pense que le moment est venu de se demander s'il ne faut pas reculer pour repartir. Parce que là, au point où on en est arrivé, tout est compliqué et bloqué.
François Bujon-Bétrand.
Bon, c'est difficile de ne pas ajouter au cœur des critiques de Bratislava, parce que c'est quand même pas une réunion formidable, Bratislava, il faut bien le reconnaître. C'est une réunion qui était d'ailleurs une date historique, au fond, puisque c'était la première réunion informelle, certes, mais au sommet, à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni. Ça, c'est une date, il faut le retenir. Et en plus, Bratislava, ça ne prétendait pas bouleverser le monde ni réinventer l'Europe, c'était une espèce de tentative de regroupement et le début d'un processus. Il faut le voir sans doute pour relativiser les choses comme telles. C'est le début d'un processus qui doit aboutir au moment de la célébration du 60e anniversaire du traité de Rome au mois de mars, par un sommet, à quelque chose qui pourrait être une relance. Il y aura une autre réunion du même genre qui aura lieu sans doute à Malte au mois de janvier à La Valette sous présidence maltaise. Donc, essayons de le relativiser en se disant c'est un nouveau chapitre qui commence à s'écrire, mais ce n'est que le début d'un processus. Alors une fois qu'on a dit ça, bon, il est très difficile de se féliciter de Bratislava. Bratislava n'a pas donné grand-chose. Et au contraire, elle a donné des résultats négatifs dans la mesure où on a enterré effectivement, alors très solennellement, la politique de quotas de réfugiés dont la Commission voulait se faire l'initiatrice il y a encore quelques mois. Et à ce titre, en effet, le groupe de Visegrad et les pays d'Europe de l'Est ont réussi à enterrer complètement ce thème de la solidarité européenne. Alors du coup, on comprend le coup de sang de Renzi. Je voudrais m'y arrêter un instant au coup de sang de Matteo Renzi, parce que dans le désert de leadership dont l'Europe offre pour l'instant le spectacle, Renzi est quand même un des dirigeants les plus intéressants. C'est d'abord, il incarne une génération montante. Ensuite, c'est un homme qui a cherché à faire des vraies réformes structurelles dans son pays. Il a cherché à faire sauter des verrous constitutionnels qui bloquaient l'Italie depuis longtemps. Il va d'ailleurs probablement souffrir dans le référendum constitutionnel qui va avoir lieu au mois d'octobre.
Non, il a été repoussé, je crois.
Comment ?
Le référendum a été repoussé, je crois.
Ah, je ne savais pas. Moi, j'en étais resté au mois d'octobre. Mais enfin, de toute façon, il va devoir avoir lieu. Il a un vrai problème. Et il a dénoncé une occasion perdue avec Bratislava. Il l'a fait avec des termes extrêmement violents, puisqu'il dit, je le cite dans son article, dans son interview du Corriere della Sera, « Bratislava aurait dû marquer un virage. Cela a été, dit-il, l'énième réunion où l'on a discuté de virgule sur un document qui dit tout et ne dit rien. Après le Brexit, l'Europe devait réagir et non tergiverser. » Bon, or, c'est exactement ce qu'elle fait, et il a raison. Mais pourquoi ? Parce qu'au fond, le paysage européen pour l'instant est tout à fait désolant. Vous avez une France qui entre dans une période électorale avec un président de la République que personne n'écoute plus guère en Europe. Vous avez une Allemagne dans laquelle le chancelier subit revers après revers dans les élections locales et prépare elle-même ses élections législatives. Une Espagne qui n'a plus de gouvernement depuis 9 mois et qui va probablement devoir aller aux urnes pour la 3e fois. Un Royaume-Uni qui a voté contre l'Europe mais qui au fond ne sait plus du tout où il en est, ni comment s'y prendre, ni quoi faire, quand appuyer sur le bouton de l'article 5. Le paysage est tout à fait désolant. Comment peut-on s'étonner dans ces conditions que cette Europe en plein chaos politique n'ait pas de nouvelles idées à mettre sur la table, pas de souffle, pas de vision, et offre l'image d'un encéphalogramme plat?
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je suis un peu étonné, non pas de ce que vous dites, parce que je trouve que c'est tout à fait juste, mais du fait que ça vous paraisse nouveau, notamment Nicole dit Bratislava.
Moi, ça me paraît s'afficher.
Oui,
avec,
oui ça s'affiche, mais moi j'ai été tout à fait frappé pendant la campagne Brexit du caractère totalement irréel des gens, même des amis à moi, comme Alain Lamassoure par exemple, qui disait « si le Brexit passe, ça va être l'occasion, le franco-allemand va se relancer, etc. » Je n'en ai jamais cru un seul mot, et je crois d'ailleurs que si le Brexit a eu lieu, c'est précisément parce que le couple franco-allemand est malade et que le Brexit est une sorte de maladie opportuniste que les Anglais ont senti que pour la première fois depuis 1950, le blocus continental, puisque l'Europe pour eux c'est le blocus continental de Napoléon sous une autre forme, le blocus continental était fissuré et qu'on pouvait peut-être apporter la chiquenaude qui allait tout brouiller. Et effectivement, ça ne marche pas. Donc je suis absolument, je partage totalement votre pessimisme, votre scepticisme au Bratislava, mais je ne trouve pas du tout que ce soit une innovation, sinon effectivement, comme le dit François, parce que ça apparaît maintenant au grand jour dans l'opinion. La deuxième chose que je constate, c'est, je dirais, deux choses. Un, l'Europe ne meurt jamais. Vous savez, il y avait un livre d'histoire sur le roi, oui. Sur les rites funéraires, le roi ne meurt jamais. Nous sommes à la 4e crise, directe ou indirecte, qui ne se traduit pas par une rupture fondamentale. La première, ça a été le référendum français, où on a compris que les gens n'aimaient pas l'Europe, mais que personne ne savait que faire du vote non. Personne, ni ceux qui avaient voté non, ni ceux qui avaient voté oui. Bon, parce que ceux qui avaient voté non n'avaient aucun moyen d'avoir une Europe différente, et nous avaient dit qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte de l'Europe. Et ceux qui avaient voté oui, bah, ils ont bricolé un truc en disant « on supprime le mot constitution, puis on rapetasse les plats ». La deuxième crise, ça a été la crise grecque. On a quand même vu quelqu'un qui a dit « ça suffit, l'Europe du Sud, etc. », avec tout un ensemble d'arguments qui étaient plus ou moins bons. Mais bon, et le Tsipras gagne son référendum, et le lendemain il dit « je suis assez costaud pour dire que tout ça c'est du flan, et que je reste dans l'affaire, et que je fais ce que les Allemands, ou je dis que je fais ce que les Allemands veulent que je dise ce que je fais, ou veulent, bon, etc. » Troisième exemple, la Suisse. On a eu quand même un référendum sur le refus de l'immigration. La Suisse est une sorte de Royaume-Uni aggravé, si je puis dire, dans ses rapports avec l'Union européenne. On a eu un référendum sur l'immigration qui était absolument net. La votation en Suisse, les Suisses voulaient arrêter les flux d'immigrés à partir de l'Union européenne. C'est exactement la même thématique que la thématique dominante de M. Farage à Londres. Eh bien, ça a eu lieu, je crois, il y a 2 ans. Et 2 ans après, alors que la Confédération helvétique, les institutions sont très claires, les Suisses continuent à se gratter le bas du dos en se demandant ce qu'ils vont faire parce qu'ils comprennent très bien que s'ils font quelque chose de sérieux, ils fichent en l'air les assises de leur affaire, de leur économie. Et le Brexit, c'est exactement la même chose. Et donc, je ne suis pas étonné que le seul résultat positif, comme vous l'avez dit, de Bratislava, c'est-à-dire le fait que ça n'a pas fait boule de neige, ça n'a pas entraîné une vague sécessionniste de la part des pays du Nord, c'est que tout le monde se dit, oulala, c'est pas bon dehors. D'ailleurs, les Norvégiens avaient prévenu les Anglais. Le Premier ministre norvégien avait dit, si vous sortez, si vous voulez prendre le statut norvégien, ça va pas vous plaire du tout. Et effectivement, ils le savent. Donc, on a cette affaire-là. Alors, deuxièmement, l'Europe ne meurt jamais, mais l'Europe a cessé de vivre. Et donc, c'est quelque chose de très impressionnant. Et là, moi, je crois, je m'inscris en faux sur un truc. Je ne crois pas que ce soit une crise de l'Union européenne. Je crois qu'il faut arrêter. Il n'y a plus d'Union européenne sur le plan institutionnel depuis, sans doute, le traité de Nice. C'est-à-dire qu'on est maintenant, je veux dire que Quatremer, j'ai pas le temps de le lire, mais Quatremer a écrit dans Libération des choses extrêmement justes sur la destruction totale de cette merveille institutionnelle d'efficacité et de démocratie qu'était l'Europe communautaire telle qu'elle s'était construite depuis le traité CK jusqu'au traité de Maastricht inclus. Eh bien, Tout ça a été brisé en plusieurs traités, Amsterdam, Nice, pas récupéré à Lisbonne, aggravé à certains égards, et en plus aggravé par une pratique, et une pratique qui a été idéalisée, notamment par Madame Merkel, qui a fait un discours à Bruges, disant que maintenant l'Europe communautaire c'était fini, et qu'il fallait faire la méthode de l'Union, c'est-à-dire une méthode intergouvernementale, on met tout le monde dans une salle, et il en sort ce qu'on voudra, c'est d'ailleurs la méthode souverainiste. Mais c'est pas ça que je veux dire, d'essentiel, c'est que sur les valeurs fondamentales, il n'y a plus personne. Il y a trois Europes. Vous avez dit deux Europes, il y en a trois. Il y a l'Europe du marché commun, c'est l'Union sans cesse plus étroite, portée par la France et l'Allemagne. Personne, ni les Français, ni les Allemands, ne veulent aller plus loin. La deuxième Europe, c'était l'Europe du libéralisme, l'Europe de l'Association européenne de libre-échange, emportée par les Anglais. Les Anglais ont poussé sur la voie du libéralisme, y compris dans la libre circulation des personnes, jusqu'au moment où ils ont renversé complètement leur politique et ils ont dit « Nous brûlons ce que nous avons adoré, nous ne voulons pas des Polonais », alors qu'ils nous avaient fait des pieds et des mains pour qu'on n'ait aucune clause de sauvegarde. Et la troisième Europe, c'était l'Europe du Comecon, c'est-à-dire l'Europe de la protestation démocratique incarnée avec quel brio dans les années 80 par Solidarność et la révolte polonaise, et on a des pays qui tournent le dos. Alors là, on a une crise fondamentale des valeurs européennes, c'est-à-dire le respect du droit. Premièrement, l'Europe, c'est par le droit. Deuxièmement, les valeurs de partage. Plus personne ne veut partager. Et troisièmement, les rapports de puissance, c'est-à-dire plus personne ne veut être cela. Eh bien, si en Europe, personne n'a en commun ces valeurs, c'est pas la peine de dire que l'Union européenne est en crise. C'est la civilisation européenne qui est mortellement menacée.
Nicole Nisotto.
Parfaitement d'accord avec Jean-Louis. Et Jean-Louis, c'est vrai que je suis un peu surprise, mais c'est peut-être ma naïveté politique que vous connaissez.
Oui.
Je n'attendais pas grand-chose de Bratislava, mais je n'attendais pas autant de cynisme et de démission. C'est-à-dire que la crise est tellement grave, et vous le dites vous-même, la crise est tellement grave que je m'attendais à ce que l'intérêt collectif prime un peu les intérêts nationaux. Mais ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que dans pratiquement tous les pays, et surtout entre la France et l'Allemagne. La perspective des élections prochaines fait que l'Europe est devenue le sujet tabou. Oui. C'est vraiment, pour vous citer ou ne pas vous citer, cacher cette Europe que je ne saurais voir, pour reprendre un Molière célèbre. Et donc, cette explication par le contexte électoral immédiat de la France et de l'Allemagne est grandement, à mon avis, responsable de ce non-événement qu'a été Bratislava. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a une crise vraiment de la civilisation occidentale, pas seulement européenne,
oui, occidentale.
Deuxième point sur l'Europe et le Brexit. Ça aussi, c'est un élément de ma surprise, dans ma grande naïveté. Le Brexit est quand même le choc le plus important que l'Europe ait connu depuis la chute de l'Union soviétique. Il y a eu un choc positif qui était l'intégration de la RDA. Il y a le choc négatif qui est la désintégration par le Brexit. Or, à Bratislava, les chefs d'État et de gouvernement ont dit que le Brexit était un non-event. Il ne s'est rien passé à Bratislava, là, pour citer Marguerite Duras, il ne s'est rien passé du tout. D'une part, ils n'en ont pas parlé, ce qui est quand même extraordinaire. C'est l'événement destructeur et ils n'en ont pas parlé. Et pourquoi n'en ont-ils pas parlé ? Parce qu'ils ont cette approche juridico-administrative. Comme la Grande-Bretagne n'a pas agité l'article 50, eh bien, ça n'est pas un événement à l'ordre du jour et ils ont refusé d'anticiper et de discuter de ce que serait pour eux le meilleur Brexit possible. Donc, c'est un non-event au niveau du Conseil européen. Deuxièmement, c'est un non-event parce que la Grande-Bretagne était informellement à Bratislava. Et ça, on l'a vu très bien sur un dossier qui m'est cher, le dossier de la défense européenne, où ils ont fait un tout petit peu de progrès. Mais tout en n'étant pas là, le ministre de la Défense britannique, la veille, avait dit « Attention, moi je mettrai un veto, puisque je suis encore membre de l'Union européenne, à tout ce que vous pourrez décider informellement et qui pourrait remettre en cause l'OTAN. » Donc, de toute façon, la Grande-Bretagne est là. Et deuxièmement, ce sommet informel ne peut prendre aucune décision, puisque en droit, c'est de l'informel. Et donc, c'est pour ça que je suis très sceptique... François, sur l'échéance de mars l'année prochaine, le 60e anniversaire des traités de Rome, il ne se passera rien parce que la Grande-Bretagne sera là et qu'elle empêchera, elle mettra un veto à toute nouvelle impulsion de l'Union européenne. Donc voilà, je suis toujours surprise et malheureusement... dernier point, pardon, l'Europe, Jean-Louis, elle existe chez les citoyens et elle existe comme le repoussoir, c'est ça le drame.
François Bujon de l'Étang.
Oui, mais vous avez raison, Nicole, d'être sceptique sur le mois de mars et l'anniversaire du traité de Rome. Bien sûr, on ne peut que l'être dans le climat actuel. Sur le Brexit, on peut voir les choses de plusieurs façons. Sur cette affaire de la défense, c'est tout à fait caractéristique et caricatural. Mmh. Parce qu'en réalité, les Européens n'ont pratiquement rien décidé sur le thème de la défense européenne, sinon de dire qu'il fallait remettre le thème de la défense et de la protection des frontières à l'ordre du jour. Et les Anglais sont montés au cocotier de façon absolument hystérique dans la presse britannique et avec la déclaration de mise, comme si on voulait remplacer l'OTAN par l'Union européenne. Enfin, franchement, ils nous font rire. Alors, si on veut chercher un élément un peu pour se rassurer, on peut dire aussi que Bratislava aurait pu étaler les divergences entre les pays européens sur la façon de traiter les suites du Brexit. Et ça n'a pas été le cas, en réalité. Il y a une espèce de socle commun sur lequel tous les Européens sont à peu près d'accord, c'est-à-dire que lorsque s'ouvriront un jour indéterminé les négociations du Royaume-Uni avec l'Union européenne, on ne pourra pas accorder aux Britanniques l'accès au marché unique s'ils n'acceptent pas les quatre libertés, dont celle de circulation. Il y a quand même un accord là-dessus.
Thierry Pêche.
Oui, en deux mots, on assiste à un effondrement ralenti depuis 10 ans. La rivière sort de son lit, inondation, crise de l'euro, et puis elle rentre dans son lit, et on a le sentiment que les choses sont toujours là, qu'elles existent, la façade est toujours là. En réalité, c'est de plus en plus un théâtre d'ombre. Il y a un moment effectivement où on arrivera à la couche la plus dure, et on y est d'une certaine façon, on y est. Donc le prochain coup, ce sera vraiment probablement la désintégration de l'ensemble européen. Je pense que ce prochain coup n'arrivera pas, parce que contrairement à Jean-Louis, je ne crois pas qu'on soit dans une crise de civilisation. Chacun a trop à perdre pour laisser filer cette affaire. Donc on trouvera des compromis.
Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. D'abord, je précise que vérification faite, c'est fin novembre, le référendum constitutionnel en Italie. Ouais. Ensuite, peut-être, puisqu'on vient de parler de l'Europe, quand même, après M. Barroso, qui a filé chez Goldman Sachs, la banque qui a aidé la Grèce à truquer ses comptes. Voilà, Mme Nelly-Kreuz a oublié de déclarer un certain nombre de participations. Nicole disait, le peuple s'intéresse à l'Europe, mais c'est comme un repoussoir. Voilà, en effet, de quoi nourrir cette sensation. On répond que Mme Kreuz était la commissaire européenne qui trouvait que le droit d'auteur gênait l'accès aux œuvres, et tout en même temps en souhaitant interdire que l'État intervienne par exemple dans le financement du cinéma et des choses de ce genre. Mais ma brève
portera... Elle a quand même pas fait de fonds d'investissement commun avec Cahuzac.
Non, mais elle aurait pu en effet y ajouter Barroso. J'ai vu dans une émission, autrefois, les curés désagréables, ceux qui intervenaient dans tout, etc., ils avaient un surnom que j'aime beaucoup, qui était les ratichons. Le mot a perdu un peu peu de gens le connaissent, et je pense qu'il faut rétablir ratichon, mais pour parler de certains animateurs de télévision. Et j'ai vu notamment un ratichon de la télévision qui recevait un des athlètes, en fait le porte-drapeau des Jeux Paralympiques, le porte-drapeau français, qui avait un remarquable joueur de tennis paraplégique en petite voiture à roulettes. Et alors, sur un ton très indigné, le ratichon lui montre des commentaires faits par France Télévisions, par je ne sais qui, disant à propos d'un pongiste qui n'avait plus de bras, le commentateur dit « Ah, ça me scie !» immédiatement, le s'indigne, le ratichon de s'indigner en disant « Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça vous fait ?» etc. Et le joueur de tennis, type magnifique, avec vraiment une joie de vivre qui vous fait honte quand vous-même vous avez tous vos membres, le regarde en rigolant et dit « Mais enfin, vous croyez quand même pas que vous allez adapter votre vocabulaire à notre situation? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai dit « Les bras m'en tombent. » Donc voilà, je voudrais remercier ce remarquable athlète, Nicole Niesoto.
Je voudrais revenir sur un événement littéraire qui a eu lieu mercredi prochain, qui est la remise du prix Brienne du livre de géopolitique, et qui a récompensé deux ouvrages dont on avait parlé dans cette émission, que je recite rapidement. L'ouvrage de Pierre Hassner, qui a eu le prix spécial du jury pour La revanche des passions, chez Fayard. Et le prix du jury 2016 est allé au Président et la bombe, dont j'avais moi-même parlé, de Bruno Tertrais et Jean Guinel, paru chez Gallimard, et qui est une analyse du lien entre le Président de la République et la dissuasion nucléaire. Mais je voudrais aussi parler d'un troisième ouvrage qui n'a pas eu de prix, mais qui est arrivé en troisième position, et qui est un ouvrage totalement remarquable, qui est une somme sur un sujet un peu exotique et difficile sur la Corée du Nord. Le livre s'appelle... Corée du Nord, un état guérilla en mutation. Il est paru chez Gallimard. Philippe Ponce est le journaliste correspondant du Monde en Asie. Et c'est véritablement une somme à la fois fascinante et terrifiante de ce pays complètement anachronique sur la scène internationale.
François Bujon de l'Étang.
Albin Michel vient de publier le troisième tome de la correspondance de Romain Rolland et de Stéphane Zweig, qui couvre les années 1928 à 1940, c'est-à-dire les années des grands drames européens, et qui est d'un intérêt tout à fait particulier, dont je recommande vraiment la lecture. Je sais que Stéphane Zweig est très à la mode et que tout ce qui le concerne nous touche beaucoup. Romain Rolland, lui, par contre, est un personnage assez oublié par l'histoire, et l'on se dit, à lire sa correspondance, que l'oubli, parfois, n'est pas injuste.
Oui, c'est...
Et je trouve que cette correspondance très intéressante, qui est celle d'une vraie amitié entre deux personnages qui ont marqué l'histoire des lettres dans l'entre-deux-guerres, est un très curieux dialogue entre quelqu'un, Stefan Zweig, qui fait preuve d'une totale lucidité sur le nazisme et sur Hitler et sur le drame qui déchire l'Europe, et quelqu'un qui est Romain Rolland, qui fait preuve au contraire d'un aveuglement total sur l'Union soviétique, sur Staline, sur les grandes purges. Adorateur de Staline, contre, au contraire, critique de Hitler, sur les grands débats qui ont agité l'Europe des années 30, la lecture de cette correspondance est très intéressante.
Il y a une malédiction patronymique qui fait que Romain Rolland a été oublié au profit de Jules Romain, qui a été oublié au profit de Jules Renard, puis ils ont été tous oubliés ensemble.
Mais pardon Philippe, mais que Romain Rolland ait pu mettre sur un pied d'égalité Gandhi qu'il admirait et Staline qu'il admirait aussi, ça laisse quand même pantois. Ça laisse
Thierry Pêche.
Moi je voulais revenir sur la polémique entre les économistes suite à la parution du livre de Cahuc et Zilberberg sur le négationnisme. Je trouve cette polémique importante. La profession économique est malheureusement extrêmement divisée. Je pense que Cahuc et Zilberberg n'ont vraiment pas rendu un service à leur profession, ni même à leurs outils de travail. Moi, j'ai comme éditeur autrefois publié des auteurs qui se servaient de l'économie expérimentale, mais qui jamais, au grand jamais, n'en auraient fait une espèce de loi majeure de la science ou de science absolue, comme veulent le faire Cahuc et Zilberberg, qui laissent penser que l'économie expérimentale serait l'égale de la physique, de la chimie, de la biologie, ce que, évidemment, ça n'est pas. Il faut vraiment que les économistes se débarrassent de l'idée qu'un jour ils ressembleront aux physiciens, ça n'arrivera jamais.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que ce sont deux économistes de grande qualité, mais qui se sont aventurés sur un terrain un peu dangereux, je suis d'accord avec vous. Je le regrette parce que je les aime beaucoup et je crois qu'ils ne servent pas effectivement la cause, leur cause dans cette affaire, et c'est dommage. Parce que la cause de ceux qui ne combattent est très mauvaise.
Alors ça, on en reparlera. Oui. C'est trop facile.
Non, c'est pas trop facile.
Si, c'est trop
je
facile.
Je ne voudrais pas vous presser, bon. Mais si vous voulez mais, bien arriver à votre brève.
C'est, en revanche... ce que je voudrais dire, c'est que dans ce débat assez lamentable de la politique française, où vraiment tous les acteurs, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, sont absolument nuls, je voudrais rendre hommage à deux catégories d'intervenants. D'abord, celui auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Philippe, c'est-à-dire l'Institut Montaigne et le rapport fait par Hakim El Khoury sur l'islam en France. Je crois que là, on a un exemple de très grand investissement, très coûteux, hein, d'ailleurs, investissement scientifique, grande modération, grande rigueur intellectuelle, vraiment un outil de travail. Et dans un autre genre, je vais rendre hommage à une radio concurrente, mais BFM Business, je trouve que le travail que fait mon vieux camarade, bon, il est vieux comme camarade, pas comme homme, Emmanuel Le Chypre, en essayant de passer l'ensemble des programmes des candidats au filtre d'une analyse économétrique, ça laisse un peu un débat qui autrement est léger. Et je trouve quand même très impressionnant que ce soit des acteurs extérieurs au débat politique qui le nourrissent substantiellement.
Merci, c'était donc L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine et il reçoit un agriculteur boulanger dans une émission qu'il a titrée Le collectionneur de blé. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.